RCF.
Jérôme Moreau, nous avons vu avec vous que pour évoquer l'Esprit, l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, il existe des tas d'images. Il y a aussi des mots, des noms, des adjectifs qui le caractérisent. On va s'arrêter aujourd'hui sur le mot paraclet, parce que c'est un mot assez peu utilisé, mais qui désigne cet esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire paraclet ?
Alors, paraclet, c'est un terme qui a été employé par l'évangéliste Jean, qui est le seul à l'employer dans le Nouveau Testament. Et c'est un terme qu'on ne sait pas très bien traduire de manière claire, et donc on a fini par regarder souvent ce mot de paraclet qui fait un peu peur. Étymologiquement, ce terme signifie celui que l'on appelle auprès de quelqu'un pour l'aider, lui porter assistance. Pas complètement un avocat, parce que ça c'est une fonction définie, mais c'est vraiment la personne qui est auprès de quelqu'un d'autre pour l'aider. Alors parfois on va jusqu'à traduire par consolateur, parfois celui qui intercède, parfois un témoin. Il y a des dizaines de traductions différentes en fait selon chaque Bible. Ceux qui osent le traduire trouvent des choses très différentes, et ceux qui n'osent pas gardent ce mot un peu effrayant de paraclet.
Qui est un nom en lui-même. On lui met un P majuscule d'ailleurs ?
Ça devient comme un nom propre, effectivement. Ouais. Le paraclet, comme on dirait à la limite le Christ. Au départ, ça veut dire le Messie, l'envoyé. Mais le paraclet, voilà, c'est une manière de dire, c'est son identité. L'esprit agit en étant un paraclet.
En tout cas, il est de notre côté. Il est en notre faveur,
exactement.
Toujours.
C'est ce que dit Jésus. Voilà. Le Père va vous envoyer, quand je ne serai plus là, un autre paraclet, c'est-à-dire quelqu'un qui agira comme Jésus lui-même agit, ce qu'en fait paraclet peut être aussi un nom de Jésus lui-même.
Jésus, le Père, l'Esprit, en régime chrétien ça s'appelle la Trinité. C'est à ce moment-là qu'on comprend ce mystère, à partir du moment où l'Esprit descend sur les apôtres et sur Marie, quelque chose de la Trinité se révèle.
Alors quelque chose de la Trinité se manifeste effectivement avec force, fracas même. Après, pour mettre des mots dessus et commencer à dire qu'il y a trois personnes qui forment une trinité, il a fallu plus de temps. Mais ça a d'abord été vécu par les chrétiens, et de se rendre compte que la présence de Dieu perdurait de manière forte, même si Jésus n'était plus là, par l'Esprit. Et donc c'est comme ça qu'on en vient à entrer en relation avec l'Esprit, et petit à petit à chercher des mots pour dire c'est une autre personne comme le Fils et comme le Père.
Parce qu'en fait, c'est ça le sens profond, c'est-à-dire que Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est manifesté un certain nombre de fois à ses disciples après sa résurrection, puis il les a quittés.
Voilà, il est remonté vers le Père, et donc on pourrait avoir l'impression que il nous manque quelque chose à jamais. Jésus est reparti, il a laissé des mots, mais ces mots vont s'effriter, disparaître, être transformés. Et ce que Jean, dans son évangile, dit de manière très forte, c'est que au contraire, Jésus étant parti, il ouvre la place pour cet esprit qui est en parfaite communion avec lui, en parfaite communion avec son Père. Et donc, il va prolonger, clarifier et faire durer de manière vivante cet enseignement et ce témoignage.
Il ne nous abandonne pas au moment de l'ascension ?
Exactement. C'est ce que Jésus dit à la fin de l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Jean répondrait en quelque sorte, oui, de fait, parce que nous avons reçu cet esprit qui nous permet de rester en communion avec les trois personnes de la Trinité ensemble.
On se dit que pour les apôtres, là, les fameux 10 jours entre l'Ascension et Pentecôte ont pu peut-être être longs, non ? Alors que chez Saint Jean, vous nous dites que tout s'est fait au même moment.
Oui, mais cela dit, ils avaient quand même rencontré le Christ ressuscité, donc ça doit quand même donner une grande confiance, et il y avait peut-être cette attente dont ils ne savaient pas exactement ce qu'ils attendaient, mais qui n'a duré entre guillemets que 10 jours, sachant que c'est Jésus ressuscité qui leur dit, voilà, je pense qu'il y a comme de quoi avoir confiance.
Et alors cette histoire de langue, chacun se mettait à parler dans une langue différente des autres, qu'est-ce que ça veut dire dans le texte tel que ça nous est raconté ? Après avoir reçu l'Esprit, hein ?
Ça veut dire que l'Esprit donne une capacité à communiquer qui dépasse les frontières les plus basiques, qui seraient les frontières de la langue. Alors ça peut renvoyer d'une certaine manière à ce qu'était l'histoire de Babel, où les hommes ont commencé à parler des langues différentes, mais Babel c'est que le moment de la dispersion. Dans les textes rabbiniques qui parlent du don de la loi au désert, dont on avait déjà parlé précédemment, on dit que la loi va être donnée sous forme de dans les 72 langues, c'est-à-dire en fait toutes les langues de l'univers de l'époque. Et c'est ce qui se passe avec la Pentecôte et le don de l'Esprit. L'Esprit communique ce qu'est Jésus dans toutes les langues à toutes les personnes. Donc c'est un signe qui est donné que les disciples peuvent se mettre à parler et à se faire entendre de tous.
C'est la dimension universelle du christianisme.
Absolument, qui était déjà en germe dans le judaïsme et qui se déploie pleinement à ce moment-là.
Pour des hommes et des femmes qui sont appelés à être témoins, à faire connaître la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ au monde entier, parler toutes les langues, c'est pratique.
C'est pratique, mais c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas durable en soi. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé dans toutes les langues et tous les Juifs qui étaient venus de tous les coins de la Méditerranée et de l'Orient les comprenaient, mais on voit que ça n'a pas duré. Donc après, il y a un travail de témoignage qui est toujours à reprendre.
Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est quand même le symbole de cet envoi et de la vocation pour ces hommes à témoigner, à ne pas en rester là.
Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on voit à la fin de l'évangile de Matthieu, dont je parlais déjà précédemment. L'idée, c'est qu'à partir du moment où l'Esprit est donné, l'Église devient envoyée, chaque personne devient dépositaire de l'Esprit, et donc est appelée à témoigner de lui-même ou d'elle-même de cette expérience qui est la rencontre de l'Esprit, c'est-à-dire la rencontre du Fils et la connaissance du Père. Donc à partir du moment où l'Esprit est donné, il y a un lien immédiat, nécessaire avec la mission, et c'est ce qu'on voit dans les Actes, puisque aussitôt Pierre se met à faire un très grand discours théologique, très très carré, pour expliquer ce qui s'est passé avec Jésus, comment c'était l'accomplissement des Écritures. Donc on sent cette inspiration au sens commun et en même temps au sens fort du terme que le don de l'Esprit apporte.
Donc c'est un envoi à mission.
Directement, absolument. On le voit à la fin de l'évangile de Jean. Lorsque Jésus leur donne l'Esprit, c'est pas « vous avez l'Esprit, très bien, tant mieux », c'est « je vous envoie de la même manière que le Père m'a envoyé ». C'est-à-dire qu'on doit assumer la mission même qui était celle de Jésus. C'est pas juste témoigner de Jésus de manière distante, c'est faire comme il a fait.
Mais pourquoi, à partir du moment où l'Esprit leur est donné, qu'est-ce que ça leur donne de plus? Alors, on va le développer dans nos prochains entretiens, mais déjà, posons quelques jalons. Qu'est-ce qui fait la différence entre avant et après la Pentecôte?
Qu'il y a un envoi, en un sens formel en mission, et surtout un envoi qui reçoit ce dynamisme particulier, qui est le dynamisme d'une présence, d'une relation avec Dieu qui est épanouie. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'attente qui est le temps de la Pentecôte après la résurrection, si on suit ce que dit Luc, qui est un temps qui peut être un temps de remémoration, de relecture en commun et à la lumière des dernières apparitions de Jésus. Et il y a un moment où les disciples sont prêts et reçoivent cette effusion qui les met désormais en mouvement. C'est ce que dans l'Église catholique, nous gardons avec la confirmation, qui est un sacrement que l'on célèbre souvent à part, mais de dire, voilà, c'est le moment où vous êtes envoyé en mission. On était parfaitement catholique avant, c'est pas le problème, mais il y a un moment où il y a ce don particulier qui va créer la mission, le témoignage, la prise de parole.
L'effusion, qu'est-ce que c'est ?
L'effusion, c'est le fait que l'Esprit se répande. C'est une image encore liquide.
Et c'est une image qui est très présente, notamment dans les communautés du renouveau charismatique.
Absolument.
L'effusion de l'Esprit, ça se manifeste comment ?
Alors, je ne suis pas spécialiste je ne suis pas un grand témoin de la vie de ces communautés, mais c'est une invocation de l'Esprit, une disponibilité à le recevoir. Et ça peut passer par des manifestations qui peuvent être considérées comme étranges, en particulier ce don des langues dont Luc parle, et dont on pourra peut-être parler aussi chez Paul.
Alors vous avez dit dynamisme. Qu'est-ce que c'est que ce dynamisme? C'est une espèce d'énergie qui traverse les apôtres, une énergie nouvelle, un enthousiasme, ou c'est autre chose, c'est uniquement quelque chose d'intellectuel et de spirituel, au sens un peu déconnecté de tout le reste.
Non, au contraire, non, c'est quelque chose qui est très incarné. C'est-à-dire que cet esprit donne un dynamisme, non pas parce qu'il sépare de la vie que l'on connaît, mais parce que comme le Christ s'est incarné et a manifesté Dieu dans sa chair, dans son existence, l'esprit dans les personnes donne ce même dynamisme et ce même élan, qui est un élan absolument concret. C'est-à-dire qu'il change l'existence concrète, il ne change pas des idées abstraites qu'on exposerait uniquement dans des livres ou dans des conférences privées. Quoi.
Donc ça met en route. C'est un dynamisme, un souffle qui...
C'est une présence. On parlait de paraclet, c'est-à-dire que c'est la présence de quelqu'un qui, auprès de nous, nous met dans la joie de la relation que nous avons avec Dieu. Et c'est quasiment, si vous voulez, la manière que vous auriez envie de présenter à tous les gens qui vous entourent la personne que vous aimez et qui vous aime de façon particulière. Et c'est un amour qui se déploie, qui se partage avec enthousiasme.
C'est ça le témoignage et c'est ça la mission, au fond. En tout cas, c'est le démarrage,
c'est
l'ancrage.
Faire connaître Jésus qui a manifesté que le Père nous aimait et que nous essayons d'aimer en retour. Et l'Esprit est cet amour qui demeure en nous et que nous avons forcément envie de faire connaître autour de nous.
À demain pour poursuivre. Merci.
Avec plaisir.